Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe à Paris, il y a 3 ans. Reda, un Tunisien, vit en France avec sa femme et ses 2 petites filles depuis quelques années, en attente d'être régularisé, c'est-à-dire sans papier. Il est arrêté un jour par la police pour une infraction mineure. Il risque l'expulsion. Ses filles sont scolarisées dans une école primaire du 18e arrondissement et risquent de se voir séparées de leur père et privées de ressources. Un parent, délégué, élu de l'école, une maman bontin que l'on appellera Sophie, est alors saisie de la situation urgente et de la menace qui pèse sur 2 enfants de l'école. Elle contacte RESF, le réseau Éducation sans frontières, généralement très efficace dans ces cas-là. De fait, comme dans un réseau de résistance souterraine, Reda et sa femme sont immédiatement pris en charge par un avocat envoyé par le réseau, conseillé, orienté, épaulé. Apparemment, leur dit l'avocat, si la famille est bien intégrée, les enfants scolarisés, l'homme aura davantage de chances de ne pas être renvoyé dans un pays qu'il a quitté depuis des années. Sophie, la déléguée de parents, décide aussi de venir assister à l'audience de Reda pour témoigner au juge par sa présence ainsi que celle d'autres parents de la bonne insertion de la famille. Dans la salle d'attente, avant l'ouverture de la séance, Sophie remarque la femme de Reda qui porte un foulard assez serré. Elle se dit, peut-être à tort, que ce foulard risque de laisser une impression négative sur le juge. En même temps, elle n'ose pas suggérer directement à la femme de Reda de l'enlever. Elle ne s'en sent pas le droit. Elle essaie alors de procéder par allusion et tente une approche circonvolutive. Elle engage la conversation et commence par demander à la femme de Reda depuis combien de temps elle est voilée et si elle porte son voile en toutes circonstances. La femme, très aimable, reste un peu vague. Au bout d'un bon quart d'heure d'approche, sentant une ouverture possible, Sophie finit par lâcher le morceau et explique à la femme de Reda que ce serait sans doute rendre service à son mari que d'enlever son voile juste le temps de l'audience. La femme, étonnée, s'empresse d'accepter et ajoute qu'elle a mis ce foulard sur sa tête ce matin seulement parce qu'elle avait les cheveux sales. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, 2 autres histoires de voile, pourquoi elles l'ont mis, pourquoi elles l'ont enlevé, pour enrichir notre réflexion, pour la rendre peut-être plus complexe. Au-delà du voile, 2e épisode, c'est un reportage de Charlotte Bien-Aimée.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'avais 19 ans, je sortais d'une adolescence un peu compliquée parce que j'ai grandi sans papa et que mon papa est maghrébin, que ma mère est française. Et du coup, j'ai été beaucoup dans la recherche de cette paternité et de cette « arabité », entre guillemets. On m'a beaucoup considérée comme une maghrébine alors que moi, je me vivais pas comme ça. J'ai pas été éduquée du tout dans cette culture-là. J'ai grandi dans une famille française, blanche, juive, ashkénaze, républicaine, laïque. Donc jamais s'est posée cette différence en fait par rapport au reste de ma famille. C'est surtout l'extérieur. Alors les Maghrébins beaucoup parce que ils m'associaient à leur culture et à leurs origines, en m'appelant cousine, en me demandant d'où je venais, par rapport à mon faciès, la couleur de ma peau, mes cheveux. Et la police a... C'est la police, en fait, qui m'a vraiment définie, puisqu'ils ont quand même des critères de définition très physiques et très basiques. Et comme je traînais un peu dans la rue, ils m'ont appelée la maghrébine au chien blanc. Et donc, à un moment donné, s'est posé la question de, bon, je suis une femme maghrébine, visiblement, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Comment je vis ça? Et la première chose qui est venue naturellement, c'est de me rapprocher des Maghrébins. Donc, je suis tombée amoureuse d'un franco-algérien. Et en fait, j'ai été beaucoup dans sa famille, avec sa mère et ses sœurs, pour les fêtes, pour des réunions de famille. Et c'est vrai que leur façon de faire, leur culture, leur chaleur familiale, leur communauté, finalement, m'a vachement attirée. Et donc, progressivement, j'ai voulu un peu devenir comme eux. très doucement, je me suis intéressée à qu'est-ce qui les liait, comment ça s'articulait, et je me suis rendu compte qu'effectivement, la tradition et la religion avaient une grande importance dans cette considération familiale. Et du coup, ben, j'ai commencé à lire un peu le Coran, à vouloir faire vivre cette identité maghrébine, musulmane, en moi, et du coup aussi à tendre vers un idéal féminin. Et cet idéal féminin tendait plus vers la pudeur que vers la libération ou l'hypersexualisation. J'étais adolescente, j'assumais pas forcément ma sexualité. Et puis en plus, j'ai vécu des situations assez inconfortables par rapport à ma condition de jeune femme, par rapport aux hommes. Il y a eu des gestes déplacés d'hommes vis-à-vis de moi, des hommes plus âgés qui viennent me draguer dans la rue de manière un peu trop insistante, ou quand même au collège, c'est un peu oppressant. Donc moi, ça m'a vachement perturbée dans mon rapport à la sexualité et à ma féminité. J'ai souvent vécu le désir sexuel masculin comme une agression. Donc quand je voyais à la télé ou dans tous ces milieux hip-hop, etc., l'hypersexualisation des femmes, pour moi, c'était... Je voulais pas aller vers ça, concrètement. Je trouvais ça très agressif, toutes ces images de femmes complètement dénudées, le hip-hop où les nanas dansaient avec les fesses à l'air et tout ça. Il fallait être très très sexy pour être reconnue comme féminine. Et moi, à mon âge, ça m'oppressait, en fait. Et j'assumais pas d'être comme ça. Moi, je voulais pas avoir le cul à l'air. J'avais déjà du mal à vivre le désir masculin, alors c'était pas pour en rajouter derrière et jouer avec, en plus. Donc, moi, j'ai plutôt été vers la pudeur. Pour moi, ça répondait à un besoin. Et c'est vrai que le fait que ça soit formulé dans une religion, avec une tradition, ça me paraissait complètement logique. Je trouvais que c'était tout à fait ça qu'il me fallait. J'avais des jeans bien serrés, parce que je mettais des jeans serrés à l'époque, enfin, quand j'étais adolescente, mais j'ai commencé à mettre des petites tuniques qui descendent en dessous des fesses, ou à mettre des petits pulls qu'on accroche au-dessous pour cacher les fesses. Je mettais pas des jupes au-dessus du genou, parce que je me sentais pas à l'aise, en fait, de mettre des jupes au-dessus du genou. Je mettais pas non plus des débardeurs trop serrés, enfin, je mettais pas des décolletés de moins en moins. Et puis, j'ai aussi commencé, effectivement, à mettre un bandeau sur mes cheveux, parce que je trouvais ça joli et que j'avais besoin de ça, et ça se faisait tout à fait naturellement, doucement. J'ai commencé à porter le voile progressivement. D'abord à l'africaine, où on voyait quand même un peu mes cheveux derrière. Et puis, petit à petit, à cacher de plus en plus. C'était une forme d'adaptation progressive vers ce que je voulais atteindre. Au bout d'un moment, j'ai fini par porter le voile islamique, comme on dit. Donc celui qui s'accroche. Alors, il y a plusieurs façons de l'accrocher. Puis moi, j'aimais bien jouer avec les couleurs. On peut jouer avec les façons de le mettre. Ça ne m'a jamais empêchée d'être coquette. Mais c'était une forme de coquetterie pudique. Moi, j'ai vécu comme quelque chose de logique de couvrir la femme pour ne pas titiller le désir sexuel de l'homme. Parce que ça répondait à une expérience que moi, j'avais vécue. Et je trouvais en fait ça très logique. J'ai eu l'impression d'avoir coupé mon corps sexuel. Ce qui m'a permis, dans ma tête en tout cas, d'établir des relations avec les hommes qui ne sont pas basées sur la tension sexuelle. Et donc, d'être beaucoup plus à l'aise en présence des hommes. Alors, ça a été assez compliqué parce que j'ai eu la malchance de commencer à entrer dans l'islam en 2001. Donc, je n'avais pas prévu les attentats du 11 septembre, qui ont été vraiment un choc pour ma famille vis-à-vis de ma démarche. Ce qui a été plus compliqué, c'est mes frères. Ça a été, maintenant c'est la guerre. Et concrètement, maintenant, Nadia, faut que tu choisisses. Voilà, c'est eux ou nous. Oui, mais moi, je suis pas capable de savoir qui est eux et qui est nous. Et je pense que dans la tête de mon frère, enfin, visiblement, pour lui, j'avais choisi eux. les terroristes, les musulmans, les religieux, parce qu'en plus, après, ça, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut dans le « eux » et « nous ». Il questionnait forcément l'aspect féminin, féministe, en me demandant « mais comment tu peux aller vers des démarches de te couvrir alors que des femmes se sont battues pour être libres ?» On est quand même une famille du côté de ma mère très matriarcale, très féministe. J'ai une arrière-grand-mère qui était une des premières à se couper les cheveux, voilà, dans les années 30. Mais moi, ça me paraissait pas sortir de cette histoire familiale. Moi, je trouvais que ça, c'était assez logique. Et moi, j'essayais de leur répondre que ma liberté, c'était d'avoir le choix. Et que je reniais pas du tout le combat qu'avaient eu ces femmes pour le choix. Au contraire, je l'utilisais, parce que je trouvais que moi, ma démarche, elle s'inscrivait complètement dans ce féminisme qui était celui d'offrir aux femmes d'avoir le choix de faire ce qu'elles veulent de leur corps, quoi. Et en plus que je trouvais ça hyper agressif de voir des femmes nues pour vendre tout et n'importe quoi, que je trouvais que on utilisait le féminisme pour cacher un autre machisme, en fait, et que moi, ça m'oppressait. Alors l'étape suivante, souvent quand on entre dans la communauté musulmane et qu'on commence à pratiquer, à porter le voile, à faire ses prières et tout, l'étape suivante c'est le mariage. Il y avait quand même une forme de pression sociale, il fallait se marier, ça faisait partie du cheminement. Donc on s'organise, on est souvent il y a des petits réseaux, on regarde les hommes, on choisit un mari. Alors j'ai rencontré un homme à l'école islamique où j'allais, très sympa, converti, très gentil, on faisait plein de sorties, on était partis au ski, on avait plein de choses ensemble. Et puis je suis tombée amoureuse et du coup, comme on peut pas avoir de relations sexuelles hors mariage, on a fait le halal, ce qu'on appelle le halal, donc la fatiha, le mariage religieux, qui est effectivement interdit en France sans le mariage civil. Mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. Et on s'est mariés, on a vécu, du coup il est venu vivre là où j'habitais un petit studio dans le sud de Paris.
Oui, et ça vous a gêné pas non plus de vous marier à quelqu'un avec qui vous aviez pas eu de relation sexuelle avant?
C'était dans la logique, et puis comme la sexualité c'était quand même assez problématique pour moi, je trouvais que ça me protégeait au contraire. Parce qu'il y a la relation du mari à sa femme, qui est finalement pas tant la relation qu'un homme peut avoir avec une femme dans un autre contexte. C'est moins chargé en sexualité, finalement, en animalité, en côté passionnel, côté... c'est beaucoup plus romantique. Ce que je trouvais plutôt agréable, en fait, parce que j'avais verrouillé tout autour, et que ça me rassurait, moi, que ça se passe de manière romantique. D'être dans un cadre où il y avait un engagement masculin. Du coup, c'était pas... excusez-moi l'expression, mais j'allais pas me faire sauter et puis basta, quoi. La question du plaisir, on m'en a jamais vraiment parlé, en fait. J'ai été en couple avant de me convertir à l'islam, j'avais 17 ans. Et le garçon avec lequel j'étais, je suis restée 4 ans avec lui. Et on a eu des relations sexuelles où il m'a forcée à lui faire des choses que je voulais pas faire. Et en fait, je m'en suis rendu compte que plusieurs années après que c'était un viol. Parce qu'en fait, on me l'avait juste pas dit. Je savais pas que quand on était en couple, on avait le droit de dire non à son mec. Alors on le vit mal, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas envie, mais qu'on le fait quand même, et qu'en plus on nous demande de le faire, et que même si on essaye de dire non, on nous demande quand même un peu plus, et que c'est forcé et tout. Et ma mère, grande féministe, ne m'a jamais parlé de ça. Il n'y a quand même pas eu ce rapport mère-fille de discussion sur qu'est-ce que le plaisir, où s'arrête, quelles sont les limites, le droit de dire non, le désir masculin, comment est-ce que ça se passe, ça s'organise. Et le fait qu'il y a un manque de discours, bah, du coup, ça charge en tabou, parce que ça devient secret. Ça s'est pas passé très bien avec mon mari. Un soir, quand je suis rentrée, je suis rentrée un peu plus tôt que prévu, et il avait fermé l'ordinateur de manière un peu suspecte. Donc au début, j'ai trop rien dit. Puis le lendemain, comme je suis un peu curieuse, j'ai été voir l'historique de consultation des sites et j'ai vu qu'en fait, il avait passé la fin de sa journée à regarder des sites pornographiques. Et alors là, ça a été quand même le choc. Je me suis dit, ah ouais, ok. J'ai été partagée entre la colère et en même temps l'excitation. Mais du coup, ça m'énervait d'être excitée par ça aussi. Parce que j'essayais de faire en sorte que ça n'existe pas dans ma vie. Et là, ça me revenait dans la tronche. La colère a pris le pas sur l'excitation. Et du coup, je l'ai mis dehors. Je lui ai dit que je savais, qu'il m'avait menti, que c'était hypocrite. J'étais pas assez mature sexuellement pour pouvoir assumer d'une part d'être excitée par de la pornographie, et qu'en plus, mon mari, puisque c'était mon mari, ait envie de ça. Après, j'ai commencé à déchanter sur ce que j'avais projeté sur la communauté entre guillemets musulmane, parce que ça n'existe pas vraiment, mais ce que j'avais projeté sur les musulmans et sur l'islam et sur la religion en général d'ailleurs, et sur le fait d'être une femme au sein de cette religion, de cette communauté. C'est-à-dire que j'ai commencé à percevoir l'humanité, la grande humanité des musulmans en fait, qui n'est finalement pas différente de celle des autres, mais justement elle n'est pas différente de celle des autres. Alors que moi, je m'en étais fait tout un fantasme. Du coup, progressivement, j'ai commencé à m'éloigner un peu de... Quand on divorce... Enfin, divorce, il m'a renié. C'est comme ça que ça se passe. Ma décision, c'est moi qui voulais, lui voulait pas, en fait. Du coup, autant quand on se met en couple, on a plein d'amis, autant quand on se sépare, on en a plus beaucoup. Il y a tout un environnement qui s'est progressivement éloigné. C'était beaucoup son environnement à lui, il était beaucoup plus ancien dans cet environnement-là que moi. Et donc naturellement, ça m'a un peu mise de côté. Du coup, moi aussi, je me suis un peu éloignée. Et donc, le voile, comme mon regard sur ces gens s'est un peu dévoilé, ben naturellement, j'ai eu envie de l'enlever. C'est pas un truc intellectuel qui s'est passé, c'est un truc émotionnel. Où j'avais plus envie d'avoir ça sur ma tête, je trouvais que... c'était absurde. Dans mon cheminement, ça avait plus sa place que finalement le corps sexuel, il fallait que je m'en dépatouille autrement, que j'arrive à l'assumer et à le gérer avec d'autres moyens que de le cacher, et que les hommes finalement devaient aussi prendre leurs responsabilités. Je n'ai pas à m'imposer effectivement de couper mon corps sexuel sous prétexte que j'ai peur de leur désir. Et du coup, un jour, je l'ai enlevé. Un matin, j'ai décidé que je sortirais sans. J'ai eu l'impression d'être toute nue dans la rue. Je me souviens du vent dans les cheveux, de la fraîcheur dans la nuque en fait, du sentiment que de liberté, mais du même que j'avais eu quand je l'ai mis.
Transculture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Naïla, j'ai 25 ans, je suis citoyenne française et étudiante en master géographie. Jusqu'à mes 21 ans, j'avais un quotidien plutôt classique. Le quotidien d'une jeune fille comme toutes les autres, les sorties, les études, les voyages, avec des engagements, des valeurs qui étaient les miennes. J'ai toujours été une petite, une jeune fille et une femme coquette. J'avais toujours mes cheveux parfaitement coiffés, parfaitement maquillés dès lors que je suis devenue une jeune femme. J'ai une maman qui aime la mode, qui m'a transmis en fait justement ce goût des belles choses et des beaux vêtements. Finalement, autour de moi, à part ma grand-mère, j'ai vu très peu de femmes voilées dans mon enfance. Je voyais des voilées quand j'allais à la mosquée pour les fêtes de l'Aïd. Donc je me sentais profondément musulmane, je pratiquais. Je priais déjà, donc j'ai commencé à prier quand j'avais 16 ans, par choix. J'ai toujours été quelqu'un très en proie à la relation avec la nature, l'écoute, même du monde spirituel qui m'entoure. Donc la prière, c'est une façon de méditer. Donc du coup, j'étais persuadée d'être une musulmane accomplie puisque je pratiquais, je priais, je respectais les grandes lignes de ma religion. Et j'avais le genre de discours à dire, mais moi le voile, mais jamais, je suis une musulmane accomplie et j'ai pas besoin de ça pour finaliser la personne que je suis. Pour moi, le voile, en fait, c'était un objet de soumission. C'était, t'es soumise à un homme, quel qu'il soit, mais quelqu'un t'a forcément demandé à un moment donné de le porter. Donc c'était vraiment, tu peux être musulmane et t'as pas besoin de ça, quoi. C'est comme ça que je vivais le truc. Il y a une phrase, moi, du Coran qui me revient tout le temps en tête, c'est « Dieu aime ce qui est beau ». Et je me disais, mais si Dieu aime ce qui est beau, pourquoi est-ce qu'il faut que je me voile ? Puis un jour, avec ma maman, on a envie d'aller en Asie du Sud-Est, et plus particulièrement en Malaisie. Parce que tous les gens qu'on croisait nous disaient, mais vous verrez, la Malaisie, c'est magnifique, et puis c'est un pays musulman, mais pas comme on a l'habitude de le voir. Donc du coup, j'ai fait ma valise. Alors, ma première réflexion a été que je rencontrais pas mal de Malaisiennes voilées, de tout âge. Donc, du coup, c'était assez perturbant pour moi. Est-ce qu'on avait la même religion, mais finalement pas la même façon de l'appliquer ? Puis un jour, j'ai rencontré une jeune de 15 ans dans un magasin, en fait, d'étoiles. Et on se met à discuter pendant que ma mère regarde les étoiles. Elle me dit, mais vous êtes de quelle religion ? Je lui dis, bah moi, je suis musulmane. Elle me dit, ah bon, mais vous êtes musulmane, mais niez-vous votre foulard ? Je me suis dit, mais pour qui elle se prend, quoi ? Pourquoi elle se permet, moi, à la cliente, de me parler de la sorte ? Sauf que là, ça a été la première graine et ça a été la première réflexion. Après ça, comme on avait eu des vacances très roots avec maman et très, très simples, on aime bien, c'est dans nos habitudes, finir par un peu de confort. Beaucoup de confort. Du coup, on avait réservé en ligne dans un hôtel 5 étoiles, le Trader Palace à Kuala Lumpur. Et en arrivant à l'hôtel, j'ai eu la magnifique joie d'apprendre que notre réservation n'existait pas, alors que la carte bleue de ma mère avait été débitée. Et moi, direct, j'ai exigé à ce moment-là de voir le directeur de l'établissement. Et j'entends des talons arriver, donc je garde le nez sur mon téléphone, hein, parce que j'avais pas envie de lever le nez. Elle se présente à moi, donc elle me dit « Bonjour madame ». Donc la première chose que je vois, c'est ses chaussures. Je remarque tout de suite que c'est des Jimmy Choo. C'est des talons de haute couture. Donc du coup, c'est la première chose que je remarque. Je lève un peu la tête, donc je vois son pantalon. Je remonte la tête, je vois son blazer. Elle avait un tailleur qui me faisait penser à un tailleur typique de chez Armani, bleu ciel, quoi. C'est le truc qui m'est venu en tête tout de suite. Et puis je lève la tête et là, je vois une magnifique étole de soie blanche qui couvrait ses cheveux, rabattue sur sa poitrine. En fait, elle avait le hijab, elle avait le foulard. Et elle me tend la main et elle me dit « Bonjour, madame », donc en anglais. « Je suis la directrice de l'établissement, toutes mes excuses. » Elle avait une poigne pleine d'assurance, un regard qui ne me lâchait pas les yeux au point même que c'est moi qui étais décontenancée. En fait, elle m'a fait perdre mes moyens. Et je me suis dit « Elle est chef, elle est droite dans ses baskets, mais droite dans ses talons pour le coup. Et c'est une femme musulmane, accomplie, qui va au bout des choses. Elle est voilée. Elle est voilée. » Et en fait, j'ai eu l'impression de flotter. Ça a été une gifle, une vraie claque. Moi qui étais persuadée d'avoir raison, finalement, le voile, c'est peut-être pas un objet de soumission. En tout cas, pas en dehors de mon pays. Quand je suis rentrée en France, en fait, je me suis renfermée sur moi-même. Et je me sentais pas bien. Quand je sortais de chez moi pour aller en cours, j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. Je sais pas, il y avait quelque chose avec mes cheveux, j'arrivais plus à me coiffer, j'étais pas à l'aise vis-à-vis du regard. Il y avait quelque chose qui m'oppressait. J'arrivais pas à savoir quoi, mais j'étais pas bien. Et quelques mois après, il y a eu le Bourget, donc avec le célèbre salon du OIF. C'est un grand rassemblement des musulmans de France. Ça faisait des années avec maman qu'on se disait « Ah, ce serait bien qu'on se fasse un week-end à Paris, c'est pas très loin de Lyon finalement. » Et moi, je suis partie avec un slim de cuir, un petit t-shirt, toujours cette gêne autour de mes cheveux. Pas de gêne au niveau de mon corps, mais vraiment une gêne autour de mes cheveux, puisque j'avais une grosse écharpe par-dessus et que je rentrais mes cheveux derrière. Et donc, je suis arrivée au salon du Bourget. Il y avait ma maman. Et je lui dis « Bah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter un foulard ?» Et elle me dit « Bah, ouais, bien sûr, pas de souci. » Je m'achète un foulard léopard, rose et marron, forcément. Et ma mère qui me dit « Ah, ça te va bien ?» Je me sentais bien. Je me sentais en osmose avec moi-même. J'avais plus cette gêne qui m'embêtait depuis plusieurs jours, plusieurs mois même. J'étais bien. Le salon du Bourget se termine et on rentre donc à Lyon. Donc on monte dans le train, on s'assoit en première. Là, je commence à sentir des regards, ça commence. Il y a une dame qui m'a regardée, mais vraiment avec beaucoup d'agressivité, qui n'a pas regardé ma mère, qui m'a regardée uniquement moi, à savoir que j'étais la seule qui portait le voile. Et du coup, automatiquement, ma mère se tourne vers moi et me dit « Non, mais c'est bon, maintenant, tu peux l'enlever. C'est fini, quoi. Tu peux l'enlever, on rentre à Lyon. » Et là, instinctivement, je lui réponds « Non, maman, mais en fait, je l'enlève pas, je le garde. » Et ma mère, abasourdie, « Ah bon ? Mais t'es sûre ? Mais tu sais, moi, j'ai peur. » J'ai très vite été confrontée, en fait, à la difficulté d'être voilée en France. J'ai très vite été confrontée à l'islamophobie qui est beaucoup plus affichée à l'égard des femmes. Et j'ai très vite, en fait, compris ce que c'était que faire des choix et les assumer. Voilà. Ça a été difficile, hein. Les deux premiers mois ont été horribles. J'arrivais pas du tout, je trouvais pas ma place. J'arrivais pas à trouver mon identité vestimentaire. Je me sentais mieux, mais c'était toujours pas ça. Et du coup, je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je peux faire ? Et plus que les sites musulmans, mon repère, ça a été YouTube. Génération Y. Et là, je suis tombée sur une ribambelle de youtubeuses voilées. Elles racontent tout plein de choses sur leur propre vie, leur propre chemin, mais elles montrent surtout qu'on peut être voilé et super bien habillé et maquillé. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vois pas pourquoi je me rends malade, quoi. Je peux garder mes vêtements, rester habillée, avoir le même attrait que j'avais pour les vêtements hier, tout en venant complémenter ma tenue d'un foulard assorti qui plus est à mes vêtements. Donc ça a été... ouais, ça a été le déclic. À partir de ce moment-là, j'ai enfin pu être moi. Et je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais moi aussi parler des différentes façons de se voiler. Donc quelques mois après, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc je fais des tutoriels foulards où j'explique les différentes façons de pouvoir mettre le foulard. C'est aussi la possibilité d'échanger, de montrer qu'il y a plein de façons de se voiler. J'ai pas mis mon voile pour affirmer quoi que ce soit. J'étais déjà une citoyenne dans la vie active. C'est pas politique, c'est pas culturel, parce que j'ai une culture profondément française. C'est religieux dès lors que je dis que ça appartient au dogme, mais c'est surtout spirituel et humaniste, parce qu'en fait, finalement, en tant qu'individu et humaine, j'ai pu me sentir en osmose avec moi-même dès lors que j'ai spirituellement accepté mon foulard.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre au-delà du voile. Deuxième épisode, un reportage de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Delphine Lemaire. Merci à Nadia et Naëla, à Yamina, à Narges, à Sephora, à Amelia et à Anan. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre avec Valérie Borst qui la remplace pendant qu'elle est en vacances. Vos commentaires, vos réactions, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre ou bien sur les fameux réseaux sociaux où je vous engage à nous rejoindre. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter. On vous y attend nombreux pour commenter, partager nos émissions. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast. Vous pourrez ainsi nous écouter quand vous voulez et où vous voulez.